Europe 1. Ondelat raconte la suite de votre récit.
Les policiers vont sur les bords de la Durance, là où Guy Pourriel avait ses habitudes. Ils interrogent les pêcheurs, qui n'ont pas grand-chose à leur dire. Oui, ils le connaissent. Non, ils n'ont pas entendu parler de cette agression. Et ils s'aperçoivent que l'endroit n'est pas qu'un lieu de pêche. C'est aussi un lieu de drague gay, un lupanar au bord de la Durance. Ah, vous n'étiez pas au courant? Dès que la nuit tombe ici, ça débarque de partout et ça s'enfile dans tous les coins. C'est la cage aux folles ici de nuit. La cage aux folles. Sauf que Guy Pourriel, il venait de jour et que tout ça se passe la nuit. Par acquis de conscience, les policiers interrogent tout le monde, les pêcheurs diurnes et les dragueurs nocturnes. Il n'en sort rien d'intéressant, rien qui ouvre la moindre piste. Et les semaines passent. L'enquête est au point mort. Quand ça patine dans une enquête, il n'y a souvent qu'une seule issue. Un appel à témoins dans le journal local. Ça marche à tous les coups. Pour le meilleur et souvent pour le pire. Beaucoup de gens appellent la police judiciaire. C'est un coup à se noyer sous les appels. Deux témoignages retiennent l'attention des policiers. Le premier est celui d'un habitant de Carpentras qui vit à quelques centaines de mètres du centre commercial. Et bien le jour où le monsieur a été tué, il y avait un fourgon utilitaire blanc qui était garé juste en bas de chez moi. Et ce qui m'a marqué, c'est que sur les coups de 17h, donc au moment où le monsieur a été tué, eh bien il a démarré en drôme. Ça l'a tellement marqué qu'il se souvient de quelques chiffres de sa plaque d'immatriculation. Et il n'est pas le seul à avoir vu cette camionnette juste avant le crime. Elle avait une autocollante sur la vitre arrière, cette camionnette. Un autocollant qui présentait un plongeur sous-marin. Et lui aussi, ce témoin, se souvient de quelques numéros de la plaque minéralogique. Et donc les policiers rentrent tout ça dans leur fichier d'immatriculation, c'est-à-dire les chiffres, le modèle de la camionnette et la couleur. Et à la fin, ils arrivent à une liste de 15 véhicules. Ils convoquent les propriétaires un par un pour vérifier leur emploi du temps. Et il tombe sur un cas intéressant. Je vous confirme, il était à moi, cet utilitaire, à 20. Mais je l'ai vendu, il avait déjà un bout de temps. Il n'a pas changé la carte grise, le con. Et vous vous souvenez du nom de celui à qui vous l'avez vendu? Ça, franchement, non. Hein. La vente s'est faite sur un rond-point prédonyme. Le gars payé en liquide, moi je ne sais pas comment il s'appelle. Et vous ne voyez pas comment on pourrait l'identifier? Essayez de vous souvenir. Si, pendant qu'on était en train de conclure la vente, il a reçu un coup de téléphone sur son portable. Je sais pas si ça peut vous aider, ça. Ah oui. Oui, c'est intéressant. Il suffit de faire remonter le numéro de tous les téléphones qui ont borné ce jour-là, à cette heure-là, à l'endroit où a eu lieu la vente de la camionnette. Bon, ça y est, j'ai une liste de 15 numéros de téléphone. Qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, tu la croises avec la liste de tous les téléphones qui étaient près de la galerie commerciale à l'heure du crime. Avec un peu de chance, on va avoir un numéro en commun, quoi. Et c'est très payant, parce qu'un numéro ressort. Quelqu'un qui était sur les lieux de la vente de la voiture et sur le parking de la galerie commerciale au moment du meurtre. Bon, le gars s'appelle Eric Zago, Z-A-G-O, 34 ans, profession ramoneur. Zago? T'as dit Zago? On a déjà ce nom dans la procédure, non? Si, souviens-toi. Le patron de l'embuscade, le bar PMU où Pourriel jouait aux cartes, il s'appelle Zago, non? Lui aussi. Fernand, voilà, Fernand Zago. Ça y est, je me souviens. Quels heureux hasards! Il faut se rencarder sur cet Eric Zago, et vite. Bon, alors voilà tout ce que j'ai pu trouver sur lui. Il vit séparé de sa femme. Il a perdu la garde de son enfant. Parcours professionnel instable, il a multiplié les petits boulots. Et effectivement, depuis quelque temps, il travaille comme ramoneur. Ça ne doit pas lui rapporter grand-chose parce qu'il vit chez sa grand-mère, à Marguerite, dans le Gard. Et donc, Fernand Zago, qui tient le bar L'Embuscade, eh bien, c'est son père. C'est un ancien international de rugby, celui-là, figure-toi. Donc, petit 1, Guy Pourriel allait jouer au poker chez le père de cet Éric Zago. Petit 2, cet Éric Zago a acheté la camionnette repérée par deux témoins aux abords des lieux du crime. Petit 3, il était sur place au moment du meurtre. Ça fait beaucoup. Le socio est placé sous surveillance. Un soir, près de Nîmes, un peu moins de 3 mois après le crime, complètement par hasard, les gendarmes repèrent une camionnette blanche garée tout feu éteint au bord d'une route isolée. Et il y a quelqu'un au volant. Bonsoir, monsieur. Papier d'identité, s'il vous plaît. Vous vous en doutez, c'est lui, Éric Zago. Les gendarmes inspectent la camionnette et, négligemment posé sur le siège passager, y voient un revolver 9 mm et une cagoule et un masque de Zorro et de fausses plaques d'immatriculation. Ils contactent le central. Est-ce que cet Éric Zago est dans le fichier ? Et l'oiseau se retrouve donc en garde à vue. Bien. Vous connaissiez Guy Pourriel, monsieur Zago ? Ouais. C'était un client du bar de mon père, c'est tout. Mais moi, j'ai rien à voir avec sa mort. Mais il sait, évidemment, que quand le labo de balistique aura comparé le revolver 9 mm retrouvé dans sa camionnette avec les caractéristiques de l'arme du crime, ils sauront que c'est lui. Alors après 36 heures de garde à vue, il se couche. Ouais. Ouais, j'ai tué Guy Pourriel, voilà. Pire que ça. Ça faisait des jours et des jours qu'il le suivait avec la ferme intention de le flinguer. C'est lui qui a crevé le pneu de sa voiture. J'espérais qu'il allait descendre la caisse pour regarder son pneu. Et là, je l'aurais tué, quoi. Mais ça s'est pas passé comme ça, quoi. Il raconte aussi qu'une semaine avant le meurtre, il s'est mis en plan derrière une haie du jardin de Guy Pourriel. Mais il était trop loin de sa cible. Donc, il voulait le tuer. Et pourquoi ? Accrochez-vous, le mobile est pitoyable. En fait, ça remonte à 86, quand j'avais 17 ans, que j'étais serveur dans le bar de mon père. Il m'a mal parlé, Guy Pourriel. Il m'a dit, allez, petit, dépêche-toi, serre-moi, sinon tu vas prendre deux gifles. Il m'a humilié en faisant ça. Je peux supporter. Vous avez bien entendu. Il a tué Guy Pourriel pour une phrase qu'il aurait prononcée il y a 17 ans. On est chez des fous. Ou alors il raconte n'importe quoi. Pour vous dire les choses clairement, les policiers ne le croient pas. Et le juge d'instruction non plus. Le crime est disproportionné par rapport au mobile. Ou alors le type est complètement ravagé par les hannetons. C'est une hypothèse sérieuse. Les policiers vont voir les vieux clients du café L'Embuscade, bien sûr. Autant vous dire que 17 ans après, ils ne se souviennent pas avoir entendu Guy Pourriel prononcer cette phrase. Et franchement, j'en ai aucun souvenir. Mais ça pourrait coller quand même au caractère un peu macho, un peu coq de basse-cour de Guy, quoi. Il était comme ça, Guy. Il était grande gueule. Il était un peu dominateur, vous voyez. Le juge, bien entendu, réinterroge Éric Zago. Je comprends que vous ne croyez pas que ça peut être le motif. Mais pourtant, c'est vrai. Parce qu'à partir du moment où il m'a dit ça, qu'il allait me coller deux gifles, et ben ma vie, elle est partie de travers. Le boulot, mon divorce, j'ai perdu la garde de mon enfant. Le fait que je me retrouve à vivre chez ma grand-mère à mon âge, 34 ans. Tout ça, ça a commencé ce jour-là. Il a ruiné ma vie avec cette phrase. Il explique au cours de l'instruction que deux mois avant le meurtre, il est allé voir Pourriel pour qu'il lui présente ses excuses. Et que l'autre l'a envoyé balader. Et que ça a été le déclencheur. C'est à ce moment-là qu'il a acheté le revolver. C'est ce jour-là qu'il a échafaudé son plan, qu'il a commencé à le suivre partout, à la pêche, au bistrot, au sex shop, jusqu'au jour fatal. Normalement, vous imaginez la question qui suit. Ce type est-il en pleine possession de ses moyens ? Un expert psychiatre est missionné. À lui de dire s'il est fou.
Indubitablement, monsieur le juge, monsieur Zago souffre de ce qu'on appelle une psychose paranoïaque délirante. Elle a aboli son discernement au moment du crime.
Aboli, vous dites, professeur ?
Aboli, monsieur le juge. Sans aucun doute de ma part.
Ce qui veut dire concrètement qu'Éric Zago ne sera pas jugé. Il n'y aura pas de procès. Il ira en hôpital psychiatrique. Sauf que lui, quand il apprend ça depuis sa cellule de prison, il n'est pas d'accord. Il n'est pas fou. L'expert s'est trompé. Il veut être jugé. Il réclame une contre-expertise. Ce qui est déjà le signe qu'il va de traviole. Et ce qui devait arriver, arrive. Comme les psychiatres sont rarement d'accord, eh bien le second expert ne retient qu'une altération de son discernement, une altération, et pas une abolition. Et donc on va pouvoir le juger. Ah, l'expertise psychiatrique, science molle, molle, molle comme un chamallow. Le procès d'Éric Zago s'ouvre devant la cour d'assises d'Avignon en mars 2006. Et quand il entre dans le box, ma foi, c'est troublant. Costume impeccable, bien rasé, bien coiffé. Il n'a pas du tout l'air d'un fou. On se dit, franchement, il est normal qu'il soit jugé. Mais ça ne dure pas longtemps.
Ouais, je l'ai tué parce qu'il m'a menacé de me gifler quand j'avais 17 ans. Et pour ça, je mérite une peine. Je mérite une peine lourde de prison.
Assez vite, il apparaît qu'il travaille du chapeau. Et le témoignage de son frère et de sa sœur viennent le confirmer.
Pour vous donner un exemple, pendant une année complète, quoi, il est resté enfermé chez lui. Toute la journée. Il sortait que la nuit. Et quand il sortait, il mettait une combinaison de ski.
D'accord. Et lui en remet une couche.
En fait, c'est pas moi qui l'ai tué. C'est la balle de mon revolver qui l'a tué, Guy Pourriel.
Mamma mia, mais qu'est-ce que ce type fait devant une cour d'assises ? Sa place est à l'hôpital psychiatrique. Et les jurés sont d'accord avec moi. Ils le condamnent, puisqu'il est là. Mais à 2 ans de réclusion criminelle seulement, plus un internement psychiatrique d'office. Zago est transféré en UMD, unité pour malades difficiles. C'est un service de l'hôpital psychiatrique de Montfavet qui n'accueille que les cas les plus lourds, essentiellement des tueurs. Et bien entendu, il fait appel. 2 ans de prison, pour lui, c'est pas assez. Il veut toujours une vraie peine. Il veut aller en prison et pas à l'hôpital. Honnêtement, c'est la première fois que je vois ça. Son procès en appel se déroule en mars 2007 à Nîmes. Procès légèrement différent. Il a l'air moins fou.
Je voulais laver l'humiliation. Mais je voulais pas sa mort. Je suis coupable. Je suis responsable. Je mérite une sanction.
Et les jurés, cette fois, répondent à ses vœux. Ils le condamnent à 14 ans de réclusion criminelle. Et donc, il file en prison. La vraie. La prison où, comme la plupart des malades psychiatriques, il fait suer tout le monde, à commencer par les surveillants. Et puis les années passent, et en 2016, il est libéré. 5 ans plus tard, il écope d'une peine de prison avec sursis pour avoir harcelé l'une de ses ex-compagnes. Et voilà, aujourd'hui, il est libre, et probablement toujours aussi psychotique. C'est bon, les chamallows, hein ? Mais ça colle aux dents.
Avez aimé cette histoire ? Christophe Ondelat vous propose de la débriefer avec un invité dans un podcast d'ores et déjà disponible sur votre application.